Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, de votre rendez-vous football sur la radio mondiale en cette fin d'après-midi. Et nous commencerons aujourd'hui par cette nouvelle couronne du champion pour l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont remporté hier leur 20e Calcio, le championnat d'Italie qui a une saveur en plus être sacré à l'issue d'un derby milanais. Parmi les joueurs clés du titre, les deux recrues françaises de cette saison, Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Focus sur cette victoire interiste avec notre correspondant Matteo Cioffi. La bataille d'Angleterre et le suspense perdurent. Qui sera sacré champion de Premier League cette saison ? Gunners, Reds ou Citizens ? Ils le peuvent tous encore à 5 journées de la fin. Un indice au sujet du vainqueur, c'est ce que nous essaierons de deviner avec vous. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous, avec plaisir.
Et puis on se posera aussi cette question subsidiaire tous ensemble. Le foot anglais qui n'a aucun représentant dans le dernier carré européen, dans les mêmes derniers carrés européens, est-il encore au niveau ? Oui, mais c'est de la troisième catégorie. Alors, c'est vrai que c'est européen. Et je le citerai, mais là, je pensais plutôt à la Ligue Europa et à la Ligue des Champions. On a deux clubs français et deux clubs allemands, ce qui est quand même.
En même temps, il a joué tous les week-ends la Ligue des Champions.
Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut
vous
à tous.
Vous l'aurez reconnu.
Il est en forme.
Oui, il prend la parole avant même qu'on ait dit son nom.
Chez moi.
Tout le monde le connaît. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis un petit coucou à quelqu'un qui nous écoute ici en Ile-de-France, Bouna Dimera, un Sénégalais. Il est fan de Radio Foot.
Ah oui, bah alors ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui, grâce à vous, notamment Yoro, nous écoute du côté du Sénégal.
Exactement.
De Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor, j'espère. Vous vouliez donner un petit salut aussi, Naïm ?
Non, mais en fait, ça vous concerne plus vous personnellement, donc j'attendrai la fin de l'émission.
Ah ouais ?
C'est un avoir avec les auditeurs, mais j'ai un bonjour à vous souhaiter de quelqu'un que vous connaissez, que je connais par ailleurs.
Allez-y.
Jean-Louis Crossi.
Ah,
qui vous passe le bonjour.
Il écoute Radio Foot, vous croyez ?
Je ne sais pas s'il écoute Radio Foot, mais il vous connaît, vous, il me connaît moi, donc m'a dit tu y passes le bonjour.
On a fait l'école ensemble,
c'est
alors
ce qu'il m'a
ça
dit.
Nous rajeunit pas.
Alors voilà, je vous passe le bonjour de Jean-Louis Crossi.
Merci beaucoup, Naïm. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission avec David Finzel et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Primo palo, colpo di testa, ha segnato l'Inter, ha segnato Francesco Acerbi. Il percussore Mkhitaryan, la sfera che gli ritorna su destro, il tiro, ha raddoppiato l'Inter, minuto 4, l'Inter è campione d'Italia, la seconda stella è sul petto delle maglie nell'azzurre, è finita così.
L'Inter Milan, champion d'Italie, l'Inter Milan, 20e titre, l'Inter Milan, la deuxième étoile, Inter champions. Inter win the derby, Inter win the Scudetto. Number 20 is no longer a dream, it's a reality now.
Melissa, Melissa, a si você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Eh oui. Après l'effort, le réconfort d'une boîte de nuit pour fêter le titre. Et on se souvient d'un certain Neymar hein, qui aimait beaucoup danser. Mais c'est une chanson brésilienne.
Il
en voilà l'explication.
Hein.
Sûrement pas. C'était son anniversaire en général ou le carnaval, peu importe. En tout cas, là, les joueurs tous ensemble fêtaient une deuxième étoile. Alors expliquons tout de suite en Italie, hein, parce qu'on se dit une deuxième étoile. Quoi ? Marseille n'en a qu'une pour le football français. Mais en Italie, au bout du 10 titres de champion, on a droit à une étoile sur le maillot. Et comme c'est le 20e titre de l'Inter Milan, ils ont donc gagné une autre étoile au-dessus de leur blason. Alors, au nez et à la barbe de leurs adversaires milanais, car pour la dramaturgie, le Milan AC comptait lui aussi 19 titres de champion avant le coup d'envoi hier soir. Et ils ont dû donc voir, les yeux dans les yeux, leurs principaux rivaux remporter leur couronne à l'issue de ce derby. C'est le deuxième titre en 3 ans d'ailleurs, puisque l'Inter a été sacré en 2021. Mmh. Et le 10e titre quand même, hein, on a compté combien de temps, Pierre Guérin a compté combien de temps il nous avait mis pour remporter 10 titres, eh bien, le 10e était de 1966. Donc, ils ont quand même mis du temps pour 58 ans, si on a bien calculé, pour remporter ce titre. En tout cas, vous allez l'entendre. au Duomo de Milan, Matteo a rencontré quelques tifosi aussi heureux que les joueurs dans leur vestiaire ambiance à Milan.
Consacrazione di una grande cavalcata, di una grande stagione.
E sarebbe doppiamente bello vincerlo in casa e contro il Milan.
Il campionato in un derby, niente di meglio.
Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, j'ai rencontré les tifosi, mais je ne suis pas allé en boîte. Hein.
Non, vous auriez dû.
On ne te croit
j'étais
pas.
Je n'étais pas invité.
On a vu les photos, excuse-nous.
Je n'étais pas dans la liste.
Ah non, la liste limitée. Matteo, c'était la grande fête donc hier devant cette belle basilique de Milan. J'imagine que ça fait la une de la presse italienne.
Oui, ça fait bien entendu la une, même si la grande nouvelle, c'est cette deuxième étoile de l'Inter, car la vraie fête aura lieu samedi prochain, après le match de l'Inter. L'Inter jouera à 12h30 face au Torino, et à partir de 15h, ça vient de sortir là, à partir de 15h, il y aura le bus qui traversera la ville, avec, bien entendu, les supporters qui seront là pour accueillir leurs héros. Donc la presse ce matin a souligné pas vraiment la grande fête. En plus, hier soir à Milan, il y avait une pluie qui n'a pas cessé de tomber sur la ville. Donc il faisait froid, c'était l'hiver. Donc il y avait vraiment quelque chose qui voulait, comment dire, un petit message que cette fête n'aurait dû pas avoir lieu. Mais bon, non, allez, je rigole, bien entendu. Et allez, rendez-vous à samedi.
Oui, et c'est amusant selon les pays, parce qu'on a vu l'autre jour le Bayer Leverkusen remporter ce championnat bien avant la fin. Mais eux, ils n'ont pas eu le bouclier, le titre encore. Ils le feront la fête
à la dernière journée.
Logique
par respect pour les autres équipes, je trouve.
Mm-hmm, oui, ouais. Je trouve aussi, mais bon. En tout cas, Matteo, il y a quand même une chose qui a été notée par beaucoup de gens. Hier soir, alors on était à San Siro et non pas Giuseppe Meazza, parce que pour ceux qui ne sont pas spécialistes, suivant l'équipe milanaise qui joue, le stade change de nom, mais c'est toujours la même enceinte. Et les Milanais n'ont pas été très fair-play hier soir.
Non, mais il faut tout d'abord souligner que la rivalité entre ces deux équipes est énorme. Donc bon, allez, c'est vrai, le fair play à un certain moment est passé au second plan. Dans les tribunes, les tifosi de l'Inter à un certain moment ont commencé à chanter Pioli's on fire pour se moquer du technicien. Et puis à la fin, quand l'arbitre a sifflé la fin du match, les joueurs de l'Inter et tout le staff sont entrés sur la pelouse. Et à ce moment, soudain, il y a eu cette musique qui a été lancée par les haut-parleurs. On n'entendait vraiment plus rien. C'était la musique à plein tube, comme à vouloir couvrir, disons, la joie des supporters et des joueurs de l'Inter. Ensuite, on a accusé l'AC Milan de n'avoir pas encore fait... il ne s'est pas encore félicité sur les réseaux sociaux. Il a pas écrit de message. La chose qui a embêté un peu tout le monde, ça a été le fait que Stefano Pioli, à la fin du match, ne s'est pas présenté en conférence de presse devant les journalistes, mais s'est limité à parler et à faire quelques déclarations seulement avec DAZN, qui est la chaîne de télévision qui retransmet les matchs de la Serie A. Donc, disons que c'était vraiment une ambiance assez tendue. Donc, c'est des choses qui arrivent, on pouvait faire mieux. Mais...
Oui.
Bon. Allez, il faut quand même se mettre dans la tête des Rossoneri qui hier soir ont vécu, à mon avis, un des pires cauchemars de leur histoire.
Oh, alors si c'est votre avis, on vous croit. Naïm Moniol, une équipe sacrée dès la 33e journée avec 86 points, 17 de plus que son dauphin. C'est quand même une domination sans partage.
C'est plus qu'une domination sans partage, parce que autant la saison de l'Inter a été quasi parfaite, il y a une seule défaite en championnat, il y a des victoires contre les concurrents directs, en tout cas il n'y a pas de défaite. Mais c'est surtout le peu de concurrence cette année qui m'a marqué. La Juve n'est pas revenue encore au niveau où elle doit être, le Milan non plus. Naples s'est quand même bien affaissé avec tous les problèmes qu'on lui connaît. Les deux équipes de Rome, c'est les deux équipes de Rome. Donc en fait, il y a eu un cavalier seul de l'Inter qui a fait le job. Hein. En attaque, en défense, tout ce qu'ils ont bien recruté. Il y a un attaquant à 26 buts, toutes compétitions confondues, peut-être même à 30 d'ici la fin de l'année. Tout ce que vous voulez.
mais je vois que l'Inter est un beau champion, mais dans un championnat qui a été plus faible que sur les années précédentes.
Et ça a été... Pardon, mais ça a été le cas sur les 4-5 dernières saisons, puisque Napoli, quand ils sont champions, ils ont 16 points d'avance. Il y a eu l'année avec le mano à mano entre l'Inter et le Milan, oui, qui s'est joué à la dernière journée. Mais avant ça, l'Inter, quand ils sont sacrés pareil avec 12 ou 13 points d'avance. C'est le problème du championnat italien depuis quelques saisons, même s'il est en train de remonter la pente. Et on le voit avec la présence de ces clubs en compétition européenne, puisque l'indice UEFA, je crois que c'est l'Italie qui est
maintenant
en tête.
Ah bah oui, maintenant, il y en a 5. Ouais. Ouais. Ils y vont.
Ce qu'on peut dire quand même, Yoro, c'est que cette équipe, elle est première du championnat, avec quand même la meilleure attaque, la meilleure défense, avec le meilleur buteur, donc Lautaro Martinez.
Les deux meilleurs
l'Argentin, les meilleurs passeurs. Mmh. Et elle est quand même sur sa lancée, même si cette année, elle s'est arrêtée précocement sur la scène européenne. Tout à l'heure, on parlera de la scène européenne. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Ligue des Champions, ils s'arrêtent en 8e, éliminés par l'Atlético. Mais l'année dernière, ils étaient finalistes quand même.
L'Inter Milan a démarré un cycle à peu près vers 2018-2019 sous Steve Zhang, qui, au-delà de tous les problèmes politiques, financiers...
Le propriétaire chinois
et président, au-delà de tous les problèmes politique et financier que peut rencontrer le club, qui est endetté à des centaines de millions d'euros.
85 millions.
Un coup, il est en vente, un coup, il n'est plus en vente. Ils ont démarré un cycle. Il y a deux titres de champion d'Italie, deux coupes, trois supercoupes, deux finales européennes.
Ouais.
Deux finales européennes, parce qu'il y a une défaite en finale de Ligue Europa en 2020 contre Séville. C'est un cycle. Ce que fait l'Inter, c'est très bien. C'est l'aboutissement d'une séquence de 4-5 ans, ça se souligne.
Et c'est le travail aussi d'un super entraeneur, Inzaghi, qui a replacé
Simone, disons son prénom, parce que comme il y a deux frères, Mancini,
exactement, mais avec déjà ce qu'il fait avec des joueurs comme Çalhanoğlu, des joueurs comme Mkhitaryan, qu'on croyait terminé, fini à la Roma, il n'était plus rien. Il replace ces joueurs-là au cœur du jeu et les joueurs qui sont partis, ils perdent Dzeko, ça se sent pas. Ils ont perdu un joueur au milieu de terrain, le Croate, comment il s'appelait,
Brozovic,
qui part en Arabie Saoudite. Ça se sent pas.
Ils ont perdu Lukaku.
Et derrière, Bastoni,
Skriniar,
qui part aussi. Mais aujourd'hui, avec Bastoni, avec un joueur comme Pavard, hier, le retour qu'il fait... avant l'égalisation.
On va en parler des Français.
T'as raison de souligner, parce qu'il y a aussi un point qu'il faut dire sur les dernières saisons à l'Inter, c'est une équipe qui se trompe peu sur le recrutement.
Et quand il est bon, ça se voit. Ils ont pris des joueurs qu'on n'attendait pas, comme Thuram, et qui a été une merveille dans cette saison.
On va en parler de ces deux joueurs, mais avant, Matteo, quand même, qu'est-ce qu'on dit en Italie de ce champion? C'est un beau champion? C'est une belle année pour le calcio ou pas vraiment?
J'étais en train de vous entendre. Je crois pas que la qualité du calcio se soit affaiblie dans ce championnat, mais c'est vrai, il faut reconnaître que ça a été un championnat moins passionnant par rapport aux autres, pas par rapport à celui de l'année passée où il y avait eu le Napoli qui avait dominé à tous les effets du début à la fin de la saison, mais si on remonte il y a deux années, il y avait eu ce duel tout milanais. Donc, oui, la qualité peut-être n'a pas ressenti vraiment du point de vue de la qualité, mais de la passion, de l'intérêt aussi. Peut-être il y a quelque chose, cette domination de l'Inter un peu, disons, refroidit l'intérêt au niveau international, parce qu'après, si vous voyez les stades, ils sont presque toujours pleins, surtout à Milan. Donc, l'intérêt était toujours haut. Hier, il y avait vraiment 80 000 personnes. Et comme je vous ai expliqué, la tension était vraiment montée au ciel à la fin.
En tout cas, c'était le sixième derby consécutif remporté par l'Inter. Donc, on parlait d'un travail sur le long terme.
Perdu par Stefano Pioli.
Oui. Malheureusement. Et vous me disiez, Matteo, qu'il ne restera peut-être pas. Mais ça, on en parlera dans un autre Radio Foot. En tout cas, deux recrues ont permis de faire la différence hier soir. Le défenseur international français, champion du monde, Benjamin Pavard, dont vous parliez, qui a fait une passe décisive notamment. Et puis, un fils d'eux, comme on peut dire, et qui est en train de se faire un prénom en Italie. Il s'agit de Marcus Thuram, qui jouait hier soir sous le regard de son papa, Lilian Thuram, installé en tribune pour assister au triomphe de son aîné, Lilian Thuram, ancien joueur de Parme et de la Juventus. Il n'a jamais joué pour l'Inter. l'Inter. Mais écoutons-le, Marcus Thuram, c'est en anglais, au micro de nos confrères italiens.
Tiens, remercier mes parents, j'espère que ça n'est que le début. Je veux aussi remercier Thierry Henry pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Thierry Henry, c'est comme un oncle pour moi. Il est là pour m'aider dans les bons et dans les mauvais moments. Il me dit toujours la vérité. Alors ce soir, je veux prendre le temps de le remercier. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui.
Il parlait en anglais avec un média anglais, puisqu'il parle très bien italien, Marcus Thuram, qui est né en Italie. Matteo, et en plus, il a marqué un but à la Mbappé, Marcus Thuram, hier soir.
Oui, oui, si Mbappé n'a pas réussi cette année à marquer à San Siro, c'est Marcus Thuram qui l'a fait à sa place. Marcus Thuram qui a été vraiment une des vraiment grandes surprises positives de cet Inter. Ben, il n'y en a pas de négatif, honnêtement. Donc, un bravo à ce joueur qui, à sa toute première année, a su imposer sa technique et sa rapidité. Faut savoir qu'il a marqué 12 buts et surtout, il a fait 11 passes décisives. Donc, à mon avis, ça a été vraiment un des grands atouts sur lequel Simone Inzaghi a misé.
Yoro, il a su imposer sa technique, il a su aussi imposer son physique, parce que Marcus Thuram, c'est vraiment...
Il est physique, il est puissant, il va vite. Il dévore les espaces et plus il est complémentaire avec Lautaro Martinez. Mm-hmm. Voilà, c'est deux joueurs très complémentaires, très intelligents. Et je crois aujourd'hui, si Lautaro a marqué 23 buts ou 24, je ne sais plus, en Serie A, 26 toutes compétitions confondues, c'est grâce aussi à Marcus Thuram qui a fait un double-double. Autant de passes des presque deux.
Et puis, il faut voir que quand il choisit l'Inter Milan, parce que c'est quasiment une des rares équipes de haut niveau à jouer à deux devant.
C'est ça.
Que
lui,
c'est
et où ce il serait voulait, titulaire. Voilà, parce qu'effectivement, ils avaient tenté de le faire venir au PSG.
Ce qui est très surprenant.
C'était encombré.
Il a bien fait de ne pas venir au PSG. Il aurait joué en pointe tout seul ou peut-être sur le banc parce qu'il ne correspondait pas au football.
Il n'aurait pas correspondu au truc. Mais en Allemagne, quand il était à Mönchengladbach, il y avait une espèce d'unanimité. C'est un bon joueur, mais il n'irait pas au-dessus. C'est-à-dire que le Bayern n'a jamais voulu casser la tirelire pour lui. On n'a jamais parlé de lui pour aller dans un très grand club. Bon, l'Inter le prend, un peu à la surprise générale. Tout le monde regardait ça un peu de coin en se disant « Bon, ils le prennent parce que c'est le fils Thuram, machin. » Mais finalement, c'est un choix qui est très réfléchi tactiquement. L'entente avec Lautaro Martinez, elle est d'autant plus forte qu'il faut faire oublier Lukaku, qui dans ce registre-là avait quand même mis le curseur assez haut. Le jeu n'était pas forcément bâti pour lui, mais il est rentré dans un moule, dans un football qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu en Allemagne. Donc il a fait une grosse saison. Ça va, je pense en tout cas, conforter Didier Deschamps dans le fait qu'il fait partie des joueurs qui... Je pense qu'il sera à l'Euro, bon, globalement, mais...
Bah, il était déjà sur les dernières
positions. Il postule même pour être titulaire éventuellement.
Titulaire, je ne sais pas, mais au moins il sera dedans. Il postule. Donc c'est une vraie belle saison pour lui. Et c'est une saison d'autant plus belle qu'elle est surprenante.
Oui. Sur Marcus Thuram,
non, mais moi, je souligne surtout l'intelligence de son choix, conseillé par son père, évidemment, de ne pas être allé à Paris, de ne pas avoir choisi pas la facilité, parce que c'est un club français. Mais
il venait d'Allemagne, hein, il a fait 134 matchs avec Mönchengladbach.
Et la décision de s'expatrier, de sortir de France, de progresser loin
après
de la
Guingamp.
France, loin des regards médiatiques, que ce soit en Allemagne, qui est un championnat fait pour les attaquants, et même l'Italie, parce qu'on parlait d'Italie, les problèmes qu'il n'y ait pas assez de concurrents dans le championnat. Moi, je trouve que c'est quand même un football qui est en train de réussir sa mue. Depuis une dizaine d'années, ils étaient très ultra défensifs, ils étaient dans la crise, ont commencé à changer un peu leur logiciel de foot. Maintenant, c'est un championnat qui est très attractif. Franchement, vous regardez les matchs, c'est quand même assez plaisant à regarder. C'est un peu comme la Bundesliga. Et donc, pour un attaquant, il s'est éclaté dans un choix intelligent, tactique, comme le disait Naïm, d'aller dans une équipe qui joue à deux attaquants, ça l'a aidé aussi. Et puis, grâce à, encore une fois, un super entraîneur. Moi, je trouve qu'on n'en dit pas assez de Simone Inzaghi. C'est l'un des tout meilleurs entraîneurs d'Europe. Parce qu'on parlait de l'élimination Ligue des Champions. Pour tout le monde, c'est quand même une grosse surprise, parce qu'il faisait partie des favoris cette saison.
Matteo, et il y a aussi un certain Benjamin Pavard, que évidemment nous en France on connaît bien, qui s'était frotté au football allemand lui aussi, quatre fois champion d'Allemagne avec le Bayern Munich.
Choix gagnant aussi pour lui. Hein.
Exactement, il a dû leur manquer finalement cette saison. Oui. En tout cas, Benjamin Pavard, il se retrouve aussi champion d'Italie l'année d'après.
Benji, c'est le cinquième titre d'affilée, hein, pas mal.
Ouais.
Oui, c'est vrai que pour le Français, disons que la première partie de saison a été limitée à cause d'une blessure à la rotule du genou qui l'a obligé à une absence de presque 2 mois. Mais à son retour, ça a été un succès. Il est devenu titulaire au centre de la défense, tout en montrant une remarquable versatilité. Et souvent, on l'a vu donner son appui sur le flanc droit ou même monter ballon au pied pour essayer de construire.
Essayer de marquer un but.
Voilà, il a marqué un but. Non, je crois qu'il a marqué 2 buts, si je ne me trompe pas.
Non, mais on se souvient tous de celui de la Coupe du Monde de 2018, c'est pour ça que je disais ça.
Ah, bah, vous parlez de la. moi, je ne me rappelle pas de cette Coupe du Monde.
Bah oui, c'est normal, vous ne la regardiez pas.
Voilà. OK. C'est facile à comprendre pourquoi il est devenu un des, disons, des idoles du peuple nerazzurro, parce que c'est vraiment l'homme un peu à tout faire. Lui et Nicolò Barella, on les appelle les hommes à tout faire parce qu'ils sont partout.
Et à noter qu'il est défenseur central du côté de l'Inter. Hein,
c'est, mais là aussi,
il se bat tellement pour l'être en équipe de France.
Il choix intelligent aussi parce qu'il va dans une équipe qui joue avec une défense 3. À 3.
Ouais.
Et c'est presque son meilleur poste en fait, sur un côté de défense. Moi je voulais juste noter quand même pour moi ce qui était le meilleur joueur de la saison à l'Inter. Le meilleur joueur, c'est Hakan Çalhanoğlu. Qui est un joueur fantastique, qui s'est réinventé, lui l'ancien 10 en numéro 6, un ancien de l'AC Milan, qui a quand même quitté l'AC Milan l'année avant où ils vont être champions. Il s'est fait chambrer longtemps par ça, notamment par Zlatan Ibrahimovic. Il s'est fait encore chambrer récemment. Et il va à l'Inter, et il gagne ce titre avec l'Inter, et c'est un joueur fantastique.
Euro.
Et moi, je reviens sur Benjamin Pavard. Hier, je ne sais pas qui a regardé le match. Le retour surfait sur la fin et Léo.
Magnifique.
Il a fait une saison monstrueuse, Benjamin Pavard. Et dans un rôle ultra défensif, là où on veut absolument qu'en France, nos défenseurs soient hyper offensifs, des contre-attaquants, il faut qu'ils jouent dans la moitié de terrain adverse. Il envoie 2 messages très forts à Didier Deschamps. Le premier, c'est que lui, il faut qu'il soit dans l'axe. Et quand je vois la saison d'Upamecano au Bayern, je me dis qu'il peut l'être. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de demander à des défenseurs de jouer en priorité comme des attaquants. Sa saison est vraiment remarquable dans ce registre.
Mais parce qu'il est aussi dans une défense à 3. Oui, il y aura toujours des doutes sur lui de savoir s'il peut jouer axial dans une défense à 4. C'est ça le problème.
Oui, peut-être.
Il l'a fait avec le Bayern.
Mais ça reste un super joueur.
Moi, je préfère le voir axial dans une défense à 4 en ayant le doute dont tu parles, plutôt que de le voir à droite où j'ai aucun doute que ce n'est pas sa place.
Ouais. En tribune était aussi quelqu'un d'important, c'est André Onana, le gardien international camerounais, qui était venu encourager évidemment ses anciens coéquipiers.
Il regrette d'être parti à Manchester United.
La question lui a pas été posé.
Il a digéré le match de Coventry ou pas ? Vous n'avez pas d'infos là-dessus ?
Je ne sais pas non plus. On l'a vu discuter avec un certain Gianni Infantino.
Je connais pas.
En tout cas, Matteo, est-ce qu'il y a eu des matchs clés, selon vous, durant cette saison qui ont fait qu'on entrevoyait l'Inter Milan comme l'équipe de l'année ?
Il y en a eu plusieurs, mais j'en choisirai quelques-uns. Tout d'abord, derby à l'aller, remporté 5-1.
Ouais,
c'était vraiment au tout début de la saison, le 16 septembre. J'oublierai jamais cette date. Et bon, là, ça a été vraiment le premier coup de fouet des interistes. Puis je cite aussi le 3-0 infligé au Napoli dans son stade de Maradona, qui a donné tout de suite l'impression qu'un passage de témoins était possible, était dans l'air. Puis encore à signaler le match fou avec l'Inter de Vérone. L'Inter conduisait 2-1 grâce à un but obtenu dans les temps additionnels, mais à la 99e minute, l'arbitre avait accordé un penalty à Vérone. Le Français Henri l'avait frappé et il avait pris le poteau à la 99e minute. Ça, c'était vraiment le match fou.
Ouais.
Puis, quoi dire, autre match certainement important, la victoire de l'Inter face à la Juve, 1-0. Parce qu'à ce moment-là, l'Inter était vraiment très, très proche des interistes. Seul point de la longueur qui séparait les deux équipes.
Et justement, Matteo, vous parliez de la Juve. Eh bien, parlons-en quand même de cette Juve. Elle compte 36 titres de championne d'Italie. Mais pour la 4e saison consécutive, les Bianconeri voient le Scudetto leur passer sous le nez. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette équipe n'arrive pas à revenir au premier plan ?
Ouais, c'est une équipe, tout d'abord, qui fatigue.
Ils sont à 22 points derrière.
Ouais, ils sont très loin. C'est vraiment une saison assez anonyme pour les Bianconeri, mais c'est, je disais, c'est une équipe qui fatigue à se confirmer dans une saison qui, en plus, était pour eux orpheline des compétitions européennes. Donc, on s'attendait beaucoup, on s'attendait d'une relance de la part du club turinois. Mais pour l'instant, les choses ne marchent pas comme elles devraient. C'est difficile de trouver un jeu linéaire dans cette équipe qui est pas capable de montrer des belles choses, mais après la semaine suivante échoue, se fait battre par un club de moyenne taille. Il y a pas vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui tracasse les joueurs. Pour l'opinion publique, bien entendu, le responsable numéro un, c'est Max Allegri. On l'accuse de montrer un jeu vieillissant, assez prévisible. Mais à mon avis, il y a aussi des joueurs qui n'arrive pas à être assuré, disons, mais c'est ça, en fait. La qualité.
Mathéo, oui. Ne crois-tu pas tout simplement que l'effectif est faible ?
Très faible.
Non, parce que si vous lisez les joueurs qui sont dans le groupe de la Juve, écoutez, Vlahovic, il n'est pas faible.
Oui, mais
il n'est pas faible.
Vlahovic et Chiesa, c'est très bien. Mais par exemple, Timothy Weah, McKenny, Bremer... Gatti,
Bremer, ils sortaient d'une grande saison.
Ces joueurs-là, tu penses qu'aujourd'hui,
et le gardien de but,
Chesney, c'est pas le pire. C'est pas le pire.
Bon gardien,
c'est pas le pire. Tu penses vraiment que ces joueurs-là, c'est à le niveau pour la Juve? Alors moi, je vois bien qu'on critique Max Allegri. Il a un style archaïque, machin. Globalement, la Juve joue dans un 3-5-2 que je vois dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de championnats. Bon, j'essaye d'avoir une réflexion intelligente. Quel joueur de cette équipe de la Juve aujourd'hui serait titulaire à l'Inter, par exemple? Il n'y en a pas énormément. Après, un garçon comme Timothy Weah, il était limite à Lille. À Lille, les amis.
Latéral.
D'accord. Aujourd'hui, il est piston à la Juve. Et c'est un des joueurs, je ne vais peut-être pas dire que c'est un des plus utilisés, mais il joue souvent quand même. Et j'ai cette réflexion-là. Aujourd'hui, la Juve, je veux bien qu'on critique Allegri. Peut-être que c'est une fin de cycle, peut-être qu'il est... Mais pas de problème. Mais à ce moment-là, qu'on fasse aussi une revue d'effectifs, parce qu'il y a aujourd'hui 5, 6, 7 joueurs du 11 de départ qui n'ont pas le niveau pour jouer à la Juve. Quand t'as retiré Vlahovic, quand t'as retiré Chiesa, quand t'as retiré Locatelli, reste qui dans cette équipe ? Des joueurs moyens.
C'est vrai, c'est certainement pas la Juve d'Antonio Conte, ça c'est sûr, la qualité n'est pas la même. Mais tout d'abord, je suis pas quelqu'un qui considère responsable Max Allegri de ce qui se passe.
Non, mais je sais bien, mais tu disais en Italie, c'est ce qu'on dit.
Oui, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique. C'est pas ma pensée. Disons que la majorité des médias considèrent Allegri responsable. À mon avis, il faut faire un autre discours. Il faut penser à tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années au sein du club.
Et en dehors du terrain, bien sûr.
N'a pas rendu les choses faciles. N'a pas donné de sérénité aux joueurs. Même si, à la fin, il faut ajouter une chose. La saison peut encore se sauver. Parce que la Juve est en route vers une finale pour la demain ils joueront la demi-finale face à la Lazio en Coupe d'Italie. Ouais. S'ils gagneront la Coupe d'Italie, à mon avis, la saison peut être sauvée. Mmh. Et en plus, ils doivent essayer d'arriver deuxième en championnat, parce que s'ils arrivent deuxième en championnat,
avec 5 places, ils vont y aller en Ligue des Champions.
Oui, évidemment.
Mais s'ils arrivent deuxième, ils pourront jouer la Supercoupe d'Italie l'année prochaine. C'est un deuxième objectif. À mon avis, rien n'est encore perdu pour les Bianconeri. C'est vrai, la Coupe d'Italie est le trophée qui pourra, rendre plus doux cette saison qui a été marquée par l'Inter.
Euro sur la Juventus, vous, votre regard?
Moi, je crois qu'ils n'ont pas les joueurs qui sont au niveau. Même quand on voit un joueur comme Adrien Rabiot, que j'adore cette saison, je crois qu'il n'a pas été bon. Il a fait une très belle saison la saison dernière. Cette année, c'est très compliqué
Rabiot,
pour lui.
Rabiot, il est neutre.
Exactement.
Rabiot, c'est comme Tchouaméni, c'est un joueur neutre. Il n'est jamais mauvais, mais pas toujours.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vous vendez quoi? Que la Juve joue le titre?
Non, la
Juve n'est pas au niveau pour jouer le titre avec les problèmes financiers qu'ils ont eu.
Mais moi, je suis 10 fois de ton avis.
Ils ont fait une dizaine de joueurs libres ces 5 dernières années.
Je suis d'accord, mais entre ne pas avoir le niveau pour jouer le titre, et on est tous d'accord là-dessus, et être à 22 points du leader.
C'est énorme.
Non, mais ils sont à touche avec le Milan AC, ils peuvent faire finale Coupe d'Italie et podium, revenir en Ligue des Champions. Pour moi, c'est une saison réussie dans les conditions particulières. Je suis d'accord, le niveau moyen de l'effectif est...
Ils sont un peu loin encore.
Ils sont en dessous, c'est logique. L'Inter, c'est une construction de 4, 5, 6 ans maintenant.
Oui. Eh bien voilà, nous avons fait le tour des sujets autour de cette victoire et belle victoire, 20e titre de l'Inter hier soir à Milan et qui lui a donné le titre de champion d'Italie. Merci beaucoup Matteo Cioffi,
merci,
à très bientôt.
Merci, à vous,
merci
Annie,
monsieur,
bonne
bientôt.
Soirée.
Grazie mille.
Je me félicite avec l'Inter vu que l'AC Milan ne l'a pas fait.
Tu peux aller faire la fête avec eux, c'est bon.
Non, je crois que samedi j'aurai autre chose à faire, mais bon. Et ok.
Merci beaucoup Matteo. À
merci
très bientôt.
À
allez, nous on file en Angleterre.
Et Martino de garde dans un angle impossible qui vient permettre à Arsenal de mettre au chaos Wolverhampton. La rédemption, elle est totale. On l'attendait de la part d'Arsenal, une réaction, cette capacité de rebond, et elle a eu lieu ce soir. Jusqu'au bout, ils seront candidats au titre.
And Aston Villa take control of the game. Aston Villa take three really important points.
C'est parti par-dessus le mur et c'est la lucarne splendide. Bouffant de traite d'Alexander Arnold. Et Liverpool s'impose logiquement à Fulham.
Une journée en retard dans ce championnat d'Angleterre à disputer cette semaine pour 10 équipes. Et la 29e journée sera une fois de plus importante pour les prétendants. Arsenal jouera face à Chelsea-Liverpool dans un derby à Everton. Derby de Liverpool, bien sûr, de la Mersey. Les deux clubs accumulant 74 points en tête de la Premier League. Mais si Manchester City est derrière à un point, c'est que les Citizens ont un match de retard. Ils sont en finale en plus de la Cup anglaise hein, face à Manchester United. Mais ils ne sont plus en Ligue des Champions, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, il ne faut évidemment pas craquer. On voit chaque semaine, alors le premier a gagné, est-ce que le deuxième, le troisième va l'emporter ? Bruno, quel est votre sentiment ?
Alors, mon sentiment, c'est que quand City va rejouer le championnat jeudi, ils auront deux matchs de retard. Donc Arsenal et Liverpool ont une grande chance d'avoir 4 points d'avance sur eux, donc ils vont les mettre sous pression. Et donc le calendrier de la Première Ligue aujourd'hui est en train de réinstaller un peu du suspense qu'il n'y avait pas avant c'est la journée de ce week-end. Donc ça peut influencer le résultat de Manchester City. Après, moi je pense qu'ils sont totalement capables, et c'est même la mieux placée des trois, pour aller au bout et remporter toutes leurs rencontres. Parce qu'ils ont cette expérience-là, parce qu'ils sont dégagés malgré tout de la Ligue des Champions. Donc leur objectif maintenant désormais, c'est la Cup évidemment, mais surtout la Première Ligue.
Ils sont tous dégagés, la Ligue européenne.
Oui, mais par rapport à d'autres, Arsenal, il y avait c'était moins de surprises. Pour City, c'est une grosse surprise, c'était leur objectif.
Donc là, vous misez City, vous ?
Ouais, je vois pas comment ils pourraient laisser. Le seul obstacle qu'ils ont, c'est le match en retard à Tottenham, où ils n'ont jamais gagné dans le nouveau stade, en Première Ligue. Mm-hmm. Donc ça peut être un piège, mais je ne les vois pas craquer comme ça.
Euro ?
Je mettrai une pièce également sur Man City. Ils ont l'habitude de finir en trombe et puis ils n'ont plus la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a l'habitude de gagner ses derniers matchs, d'être sous pression. Bien que oui, on a vu samedi Pep Guardiola qui n'a pas aimé jouer deux jours après l'élimination de City en coupe parce qu'il avait dit voilà pourquoi les autres jouent le lendemain et pas nous. C'est vrai, ils peuvent être sous pression parce qu'ils vont jouer après les autres. Mais je crois que ce City est tellement fort qu'ils vont passer. Ils vont
être tellement fort, mais on les a vus être contrecarrés par le Real Madrid.
Oui,
donc,
mais sur ce match-là, c'est eux qui jouent.
Sur un détail.
Sur un détail.
Pour un tir au but, oui.
Sur 90 minutes, quand même.
Une qualification qui joue sur les tirs au but, pour moi, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas une équipe qui a dominé plus que l'autre.
En tout cas...
Dans le jeu City, je crois.
Dans le jeu City, oui.
Naïm, est-ce qu'on peut encore miser sur Liverpool ? On sait Liverpool qui aurait aimé terminer en beauté avec Jürgen Klopp qui s'en va. Vous ne miseriez pas sur les Reds ?
Non, et je pense même que même Arsenal finira devant Liverpool. Parce que c'est une équipe qui joue bien, qui à Mohamed Salah fait une énorme saison. Ils rentabilisent le moindre de leurs jeunes, c'est très bien. Mais c'est une équipe qui a un effectif très court en quantité. J'ai l'impression qu'ils tirent de plus en plus.
En quantité.
Moi, je pense que c'est...
C'est peut-être l'effectif le plus large de Première Ligue.
Liverpool par rapport à City ?
Ah, ils ont 5-6 joueurs offensifs qui peuvent jouer à n'importe quel poste.
Moi, je pense que Manchester City a un effectif plus large. Je pense qu'ils ont un effectif plus large et une meilleure qualité Manchester City que Liverpool.
En quantité, ils sont moins à City.
Et en plus de ça, ils ont un calendrier... En fait, c'est pour ça moi, que je pense que City, comme mes camarades, va aller au bout. Parce qu'ils ont un calendrier, ils font Villa, ils font Tottenham. Là où Manchester City, bon, mis à part le match Tottenham, va faire Nottingham, va faire Luton. Donc je pense que City va aller au bout et je pense que Liverpool va finir vraiment en tirant la langue.
Arsenal ? Aucun de vous n'y croit. On les a vus l'année dernière s'essouffler juste avant et être coiffés au poteau par Manchester City. Liverpool n'était plus vraiment dans la course. Cette année, on a cru qu'ils tiendraient jusqu'au bout. Et là, on les a vus s'essouffler par deux fois.
Surtout la défaite à domicile contre Villa. Ça, c'est impardonnable. Tu peux perdre des points à l'extérieur, mais pas à domicile. Et ça les a vraiment plombés.
Et perturbés psychologiquement.
On pensait qu'il y avait un côté physique parce qu'ils ont, ils ont manqué de gaz sur cette rencontre-là et contre le Bayern. Et puis là, contre Wolverhampton, ils sont repartis un peu. Là aussi, dégagés de la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'ils sont capables d'aller au bout, de gagner tous leurs matchs. Maintenant, est-ce que City fera une erreur ? Arsenal, ils ont énormément progressé. Il faut voir d'où ils reviennent. Hein. Il y a 4-5 ans, ils étaient 8e. Hein. Ouais, ils jouent le titre depuis deux saisons. Donc, franchement, c'est fort. Et ils sont méritants sur cette saison, je trouve.
Bruno, je crois qu'ils n'ont pas perdu le championnat sur ce match face à Aston Villa. Je crois qu'ils ont passé deux semaines.
Si tu le gagnes, t'es leader aujourd'hui.
Oui, d'accord. Mais je crois que les matchs qu'ils ont perdus entre décembre et janvier. Parce que Ferguson disait qu'on ne gagne pas un titre pendant ces matchs de fête, mais on peut le perdre. Parce qu'ils ont enchaîné tellement de mauvais résultats.
Je serais d'accord avec toi s'il y a deux journées, ils n'étaient pas leaders. Il y a deux journées, c'était leader de la Première Ligue.
Avec
un match d'avance.
Non, mais je sais bien.
Mais avant la journée de ce week-end où toutes les équipes étaient à égalité, c'est City qui est leader. Donc c'est City qui a son destin en main.
Oui, il y a Arsenal ne l'a plus. Arsenal et Liverpool ont le même nombre de points, 74, et City est juste derrière avec un match en moins, 73.
Parce qu'Arsenal a une super différence de but. Donc il manque juste un point. Si City égare un petit point, match nul,
Arsenal va faire Tottenham et Arsenal va faire Manchester United. Et c'est le calendrier qui va faire toute la. Non, mais c'est la vérité.
Bien sûr. Évidemment.
Regardez. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, ils doivent terminer aussi par Everton ou quelque chose comme ça, qui est assuré d'être maintenu. Everton, encore son 16e, à voir un peu.
Ils sont rassurés.
Bon.
En tout cas, ceux qui sont très loin du podium, on les suit depuis leur saison étrange avec un nouveau propriétaire, ce sont les Blues. Chelsea n'est que 9e au classement, mais il y a un jeune joueur qui fait parler de lui.
Try and shake off Mikulenko, played it into Palmer. Oh, a lovely nutmeg on Brathwaite from Palmer. Little flick as well for Jackson. Palmer's got it back! Oh my goodness me! Cole Palmer, what have you done now? Running from the left to right! Running from the left to right!
Alors, il y a évidemment de quoi donner son espoir, de l'espoir à son club et à Mauricio Pochettino, le jeune anglais Cole Palmer. Vous avez entendu son nom. Il a inscrit un quadruplé contre Everton il y a quelques semaines. C'était le 15 avril, si je ne me trompe pas. Il est devenu surtout le co-meilleur buteur d'Angleterre. Il a rejoint, ni plus ni moins, sur cette première place que Erling Haaland. Et il avait été acheté à Manchester City. Il a éclos, en fait, à Chelsea. Il est plein de qualité, ce joueur anglais, Bruno ?
C'est la grande révélation de la Première Ligue cette saison. Avant de jouer avec Chelsea, il n'avait jamais marqué en Première Ligue. Il arrive à Chelsea, un peu sur la pointe des pieds, parce que Chelsea a dépensé 1 milliard depuis un peu moins de deux saisons.
Mais pas pour lui. Pour lui, c'était 47 millions.
Et pas pour lui. Et lui, c'était pas un des gros achats.
Mais ils ont beaucoup acheté ces derniers temps.
Il trouvait pas assez de temps de jeu à City, donc il avait demandé à partir depuis 2 ans. Et là, on découvre un gamin qui a son surnom Cold Palmer, parce qu'il a un sang-froid extraordinaire, une lucidité extraordinaire, une rapidité d'appui, de vitesse balle au pied qui est extraordinaire. Sang-froid sur pénalty, parce qu'il y avait un but, mais aussi dont 9 pénalty, ce qui est beaucoup.
Il faut savoir les marquer,
mais des pénalty importants, notamment le but du 4-4 contre City à domicile, le quatrième, c'est lui qui le met en toute fin de match. Et puis, vous parlez du quadruplé. Le quadruplé, il a fallu qu'il s'arrache pour le marquer, parce qu'il y a une bataille pour tirer le pénalty avec des coéquipiers.
Que le gamin de 20 ans dans un effectif comme ça soit celui qui prenne les pénaltys, ça veut dire beaucoup de choses.
Ouais.
C'est un phénomène. Il est gaucher, il est polyvalent, il peut jouer sur une aile, il peut jouer dans l'axe, il a d'énormes qualités. Alors, c'est toujours pareil, c'est une saison qui est tellement folle qui a le mérite d'être mise en avant, mais il y a toujours le point d'interrogation. Est-ce qu'il va refaire une deuxième? Est-ce qu'il va refaire une troisième?
Bien sûr.
C'est toujours un peu la question qu'on se pose, comme on se l'est posé pour d'autres joueurs, notamment pour Foden et tout. On se dit que c'est un phénomène qui va... C'est une espèce d'éclipse, ça va durer un peu. On en est là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il c'est quand même un garçon qui est pétri de qualité. J'espère qu'on le verra à l'Euro, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Euro soit privé d'un talent comme ça. Donc voilà, mais c'est admirable.
Euro.
On n'en parle pas beaucoup, mais il faut quand même louer cette formation anglaise quand même, avec tous ces jeunes qui sortent comme ça, des Phil Foden, des Bellingham. C'est extraordinaire. Ils n'ont même pas 23 ans, ces jeunes-là. Ils sont super forts. Ils jouent dans de top équipes. Ils marquent beaucoup de buts. Franchement, il faut louer cette génération. Moi, pour moi, ça fait très, très, très longtemps que les Anglais n'ont pas formé autant de très bons joueurs.
C'est la politique de formation qui avait été mise en place il y a une quinzaine d'années pour changer un peu le logiciel des joueurs anglais, de favoriser des joueurs qui étaient plus petits, mais plus techniquement, qui étaient meilleurs, un peu sur le modèle des Espagnols.
Bruno, est-ce qu'il peut faire de l'ombre à Erling Haaland ?
Cole Palmer ? Par rapport au classement des buteurs ?
Bah, notamment.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il est quand même dans une équipe qui est en difficulté, oui. Chelsea. Donc, c'est un peu plus difficile pour lui. Mais non, mais après, il y a un vrai débat, savoir est-ce qu'il va être à l'Euro ou pas. Si la liste est élargie, moi, je pense qu'il y sera. Parce qu'il est quand même dans un profil...
26 joueurs, hein, apparemment, ça a été admis par l'UEFA.
Si c'est 26 joueurs, il y sera sans problème. Le seul problème, c'est qu'il a exactement le même profil que Phil Foden. C'est un joueur qui est gaucher comme lui, super pied gauche, qui était plutôt à droite, qui repiquait à gauche.
Il est parti de Manchester City pour faire sa carrière. Et là, il se retrouve.
Là, ouais. on dit
mais l'autre a de l'avance, en
plus. Tout le monde dit maintenant à Guardiola pourquoi il ne lui a pas donné sa chance. Mais parce qu'il y a tellement de monde à City, dont Foden, qui a le même profil, c'est difficile de libérer du temps de jeu pour lui.
Il y a un sujet qui doit aussi faire parler dans les chaumières de la campagne anglaise. Le foot anglais est-il encore au niveau ? Alors, quand on dit niveau,
c'est... Fort, hein.
Au niveau de l'Europe... Ah bah, il y a une évidence, il y a des faits. Plus aucun club anglais dans les derniers carrés de Ligue des Champions et de Ligue Europa cette année. Alors, sauf, vous le rappeliez tout à l'heure, Naïm et à bon escient, Aston Villa qui est en demi-finale, mais de Ligue Europa Conférence. Donc, ils ont éliminé Lille grâce à Emiliano Martinez. On en a beaucoup parlé, mais sauf l'honneur des Anglais. En tout cas, cette folle bataille, peut-être pour le titre, a-t-elle des conséquences ? Je ne sais pas. Mais est-ce que le foot anglais n'est plus au niveau Euro ?
Je crois qu'ils sont moins forts.
Bruno, il nous répondra après. Parce
que les équipes anglaises sont moins fortes cette saison.
Une parenthèse, cette question est honteuse.
On est provocatrice. En fait, c'est de la provocation,
Je ne dis pas que le niveau du championnat...
On aimerait comprendre pourquoi ils ne sont pas là.
Le niveau du championnat est toujours le même. Il y a de très belles équipes, il y a de l'engagement, il y a de la vitesse, il y a de l'intensité. Mais quand on voit le Man City champion d'Europe, est plus fort que ce Man City-là. Le Liverpool champion d'Europe de Sadio Mané, Salah, Firmino est plus fort que ce Liverpool-là. Le Man United d'il y a une dizaine d'années n'est plus le même. Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions et le Chelsea de Drogba.
Arsenal, tu ne peux pas rassembler 3-4 des meilleures équipes des dernières années qui soient dans la même saison, ce n'est pas possible.
Ouais,
c'est comme si on disait que les Invincibles sont avec le grand Manchester de Arsenal, de Ferguson et le meilleur Chelsea de Mourinho.
Arsenal est plus fort. Oui. Tottenham a une régularité qu'il n'avait
mais
pas il y a 10 ans.
Mais ils sont moins forts.
Des clubs comme Aston Villa, comme Newcastle peuvent aujourd'hui accéder aux compétitions européennes. Newcastle en Ligue des Champions, c'était moins le cas il y a quelques années. Enfin, je trouve que c'est quand même très provocant de dire ça. City est toujours tenant du titre. Chelsea l'a gagné il y a 2 ans. Liverpool l'a gagné. Tottenham a été en finale. West Ham gagne la Ligue Europa. Manchester United l'a gagné. Aston Villa en demi-finale. Enfin, Arsenal est en finale de Ligue Europa. Il y a combien de clubs anglais différents qui font des finales de Coupe d'Europe ?
Alors, messieurs, comment expliquez-vous, Euro, repose la question, pourquoi il n'y a pas de club anglais dans le dernier carré ?
Il ne peut pas y avoir des clubs anglais tous les ans, et heureusement, qu'est-ce que ça
veut dire ?
Il faut que ça tourne.
Il y a très souvent des clubs espagnols.
Sept clubs anglais lors des 6 dernières finales de Ligue des Champions.
Voilà.
C'est énorme.
Heureusement qu'ils ne sont pas là tous les ans.
On s'est habitué à avoir des clubs anglais en finale de Ligue des Champions, en finale de Ligue Europa, parce que c'était une puissance à la fois financière, mais sportive, les meilleurs entraîneurs. Et parfois, ça arrive qu'une année, il y en a qui passent pas.
Ouais.
Surtout éliminé face au Bayern Munich et face au Real Madrid.
C'est
pas être éliminé par Dortmund et la Real Sociedad.
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que oui, le championnat anglais, c'est à cause de l'intensité qu'ils sont éliminés en Europe. Non, mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, Man City a perdu des joueurs comme Riyad Mahrez, comme Gundogan, qui sont beaucoup plus forts techniquement que ceux qu'ils ont aujourd'hui et qui auraient pu, débloquer des situations compliquées comme face au Real de Madrid.
Les saisons de City, d'Arsenal, de Liverpool se jouent pas à un joueur. Le championnat, il a jamais été autant compétitif. On a jamais eu une course à trois comme il y a cette saison avec trois équipes qui sont extrêmement fortes en nombre de défaites, en nombre de buts marqués.
Mais chaque
de
année,
buts
c'est pratiquement ou alors à la différence de buts.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette lutte il y a deux ans entre Man City et Liverpool, où ils font presque City était obligé de faire 100 points pour être champion, est-ce que ce Man City et ce Liverpool ne sont pas plus forts que le Liverpool et Man City de cette saison ?
Moi, je ne suis pas persuadé. Moi, je trouve qu'on est très dur avec le City. Être éliminé par le Real Madrid, je le dis encore une fois, franchement, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec au tir au but. Aucune des deux équipes qui a gagné. Il y a match nul 3-3 à l'aller, 1-1 au retour. Franchement, c'est deux équipes qui sont à peu près du même niveau. Qu'Arsenal soit éliminé par le Bayern Munich, après la grande différence, et c'est le problème du championnat d'Angleterre, c'est que cette saison en Ligue des Champions chez les Anglais, on a eu Arsenal qui n'était pas en Ligue des Champions depuis 7 ans et Newcastle qui n'était pas en Ligue des Champions depuis 20 ans.
Et ça veut c'est dire ça que qu'on Liverpool a perdu. Liverpool n'y était pas, que Chelsea n'y était pas, que c'est Tottenham n'y était pas.
Parce qu'ils sont moins forts.
Mais parce qu'ils sont, qu'il y a des cycles. Il y a des cycles. Chelsea sont dans un nouveau cycle.
Et puis, il faut pas oublier
United
un truc
en reconstruction.
Quand tu as 4 places pour aller en Ligue des Champions et que tu as 6 équipes qui peuvent y aller, tu en as toujours 2 qui sont sur le carreau. La vraie contre-performance en Ligue des Champions cette année, c'est Manchester United.
Absolument.
Qui sort pas de sa poule en perdant contre Copenhague. Le simple fait qu'Arsenal, pour moi, aille en quart de finale, déjà, c'est presque pas prévu.
Ils ont réussi leur
saison. C'est une saison qui est largement réussie. Mais moi, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y a pas des clubs anglais tous les ans en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. C'est déjà le championnat le plus fort, le plus compétitif, le plus concurrent. Vous imaginez, moi, enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord avec Bruno. Tu perds au péno, c'est pas infamant. Si ça se trouve l'année prochaine, ils en mettent 2 en finale. Puis cette saison-là, tu dis, bah, c'était une année comme ça. Ouais. Moi, je trouve presque ça rassurant. En fait, ils peuvent pas tout gagner, ces gens-là.
Mais je voulais pas vous énerver.
Je ne suis pas énervé, mais
vous disiez, j'aime pas cette question. Elle était évidemment provocante.
C'était bien de la poser parce que justement, on peut y répondre. Et il y en a qui pensent que la première ligue est en crise. Et ben non, elle n'est pas en crise.
Non,
c'est juste des
tout.
Cycles, parfois. Bon, ça passe pas.
La
plus grosse déconvenue, c'est Liverpool. C'est Liverpool qui était favori face à l'Atalanta et qui s'est totalement planté et qui aurait dû gagner cette Europa League.
Et qui ont mal calculé, ils l'ont dit. On a donc apporté une réponse à nos auditeurs. Ouais. Pour terminer cette émission, un communiqué de la Fédération internationale de Maracana. Hein, vous connaissez ça,
Yoron,
en Afrique, le foot Maracana. La première Coupe du Monde sera organisée en Côte d'Ivoire. Cette année, ça sera du 25 septembre au 7 octobre. Et c'est un genre de foot sale très pratiqué en Afrique. Et il y a encore des places à prendre. Et le dernier tour éliminatoire en zone Afrique sera organisé à la fin de la semaine, 26 et 27 avril. Et ça sera à Bissau, en Guinée-Bissau, entre eux. Le Sénégal, le Niger et donc la Guinée-Bissau. Donc on saura bientôt quels seront les participants de cette discipline, on va dire, qui est très en vogue.
Oui, qui a formé des joueurs comme Jean-Michel Seri, qui a joué au Maracana, on l'appelait à l'époque Gallardo.
Ouais. Dans d'autres pays, on joue au futsal, comme Ronaldinho au Brésil, et ça donne à peu près les mêmes conséquences, on va dire. Enfin, en tout cas,
c'est
ça,
du foot
ça
débouché, quoi.
Là, oui, c'est à 5.
C'est
à 5 aussi, et ça crée effectivement des techniciens. Alors, c'est souvent des anciens joueurs internationaux qui se retrouvent dans
le
football.
C'est une très bonne formation pour les enfants, le foot à 5.
Aussi.
Sur des terrains durs, parce qu'on apprend à contrôler le ballon, à jouer plus, à changer de poste.
Ouais. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Puisqu'on a le temps, un salut à certains qui nous écoutent du côté du Bénin aujourd'hui. Il y a un certain Nabil Djellit qui est au Bénin. Et oui,
vacances.
Oui, donc on le salue. Non, il travaille. On salue aussi Eric Falaiseau et puis Gervais qui nous écoute à Lomé. Lui aussi... À Cotonou, pardon, du côté du Bénin. On écoute, on salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment, grâce à RFI, bien sûr. Merci à tous, à demain.